Alors moi, je vais vous lire les premières pages de Life, qui est donc la biographie de Keith Richards, qu'il a écrite avec James Fox. Et en fait, sans Bernard Cohen et Abraham Caracciel, je ne pourrais pas le lire en français. Donc le résumé du premier chapitre, c'est où il est question de mon arrestation par la police dans l'Arkansas pendant notre tournée américaine de 1975 et de l'embrouille qui allait s'en suivre. Qu'est-ce qui nous a pris de faire une pause de Fordyce, une gargote de Fordyce dans l'Arkansas? Le jour de la fête nationale américaine, ou n'importe quel jour d'ailleurs, comme si je ne connaissais pas les dangers du sud Bigot et Réac après avoir passé 10 ans à le traverser en voiture. Fordyce, un trou perdu. Les Rolling Stones, le gibier au menu de toutes les polices des États-Unis. Alors en cet été 1975, le moindre flic de là-bas rêvait de nous coffrer pour nous débarrasser le pays de ces petits PD d'anglais, tout en assurant son avenir professionnel par sagesse patriotique. L'époque était violente, chargée de conflits. Depuis notre tournée STP pour Stones Touring Party en 1972, la chasse aux Stones était ouverte. Dans notre sillage, le département d'État avait signalé une flambée d'émeutes, c'est vrai, de désobéissance civile, c'est vrai aussi, et d'actes sexuels illicites. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et nous, pauvres baladins, étions censés en être les responsables. Nous incitions les jeunes à la révolte, nous corrompions l'Amérique, et le gouvernement avait juré que nous ne remettrions jamais les pieds ici. Nixon en avait même fait une question de politique de premier plan, il avait déjà déployé son talent des coups tordus contre John Lennon, car il pensait que celui-ci pouvait menacer sa réélection. Quant à nous, notre avocat en avait été très officiellement informé, nous étions tout simplement le groupe de rock'n'roll le plus dangereux de la planète. Avec moi dans la voiture, il y avait Ronnie Wood, Freddie Sessler, un type qui incroyable et mon ami et presque un père pour moi, qui apparaîtra souvent dans cette histoire, et Jim Callaghan, notre responsable de la sécurité depuis de longues années. Nous avions décidé de parcourir en voiture les 600 km qui séparaient Memphis de Dallas, où nous devions nous produire le lendemain au Cotton Bowl. Jim Dickinson, le musicien du sud des États-Unis qui jouait du piano sur Wild Horses, nous avait dit que les paysages du Texarkana valaient le détour. Et on en avait marre de l'avion. Le vol de Washington à Memphis avait été un vrai cauchemar, l'appareil avait fait un plongeon de plusieurs milliers de mètres, les gens s'étaient mis à hurler, à pleurer, et Annie Leibovitz, la célèbre photographe, était allée se donner de la tête contre le plafond de la cabine. Lorsque nous avions enfin atterri, les passagers avaient embrassé le tarmac pendant que nous étions ballottés. On m'avait vu me diriger vers l'arrêt de l'appareil pour consommer certaines substances avec encore plus d'enthousiasme que d'habitude, car je ne voulais surtout pas cacher la marchandise. Un mauvais trip à bord du vieux coucou de Bobby Sherman, le Starship. On avait donc pris la route et je me suis conduit comme un idiot. On s'est arrêté devant le Fordyce, une baraque au bord de la route. On s'est installé et après avoir commandé, Ronnie et moi, on s'est enfermés dans les toilettes, histoire de se mettre en jambes, si vous voyez ce que je veux dire. On planait totalement. On n'aimait ni la clientèle, ni la nourriture, alors on est resté une bonne quarantaine de minutes dans les toilettes à se marrer, à faire les cons. Et dans le coin, ça se faisait pas, hein. Ça énervait les employés, ils ont appelé les flics. Alors quand on est sorti, une voiture noire sans plaque était garée sur le bas-côté. Dès qu'on a démarré, une sirène s'est mise à hurler. En moins de deux, chacun de nous s'est retrouvé avec le canon d'un fusil à pompe sous le nez. En fait, on était chargés comme des mules. J'avais une casquette en jean avec plein de poches bourrées de cam. Les portières de la voiture étaient farcies de sacs de coke, d'herbe, de peyotelé, de mescaline. Et maintenant, mon Dieu, comment on allait se sortir de ce merdier ? C'était vraiment pas le moment de se faire serrer. C'était déjà miraculeux d'être en tournée aux States. Nos visas nous avaient été délivrés qu'avec une ribambelle de conditions connues tous les flics des États-Unis, fruit d'une interminable et pénible négociation de Bill Carter avec le département d'État et services d'immigration qui avait duré près de 2 ans. Et la première des conditions était bien évidemment de ne pas se faire arrêter pour détention de drogue, ce dont Carter s'était personnellement porté garant. À l'époque, j'avais arrêté à la cam dur. Je m'étais mis clean pour la tournée. J'aurais pu laisser tout le matos dans l'avion et à ce jour-là, je ne comprends pas pourquoi j'ai pris le risque de trimballer toute cette merde avec moi. On m'avait refilé tout ça à Memphis et j'avais du mal à m'en défaire, mais bon, j'aurais quand même pu me planquer dans l'avion et prendre la voiture sans rien dans les poches. Pourquoi ai-je décidé de charger la voiture comme un dealer débutant? Peut-être je me suis réveillé trop tard pour l'avion. Je me souviens d'avoir passé un bon moment à démonter les panneaux des portières pour y fourguer la cam. Et puis le payote, là, c'est même pas mon truc.